d'autres acteurs des budgets participatifs que je salue. Alors, peut-être juste en préambule, dire que je m'exprime aujourd'hui à titre personnel, puisque j'ai rejoint le conseil départemental de Seine-Saint-Denis il y a quelques semaines, 3 semaines exactement. Donc, je suis l'ancien responsable de la mission budget participatif de Paris et désormais directeur de la délégation à la transition écologique du département de la Seine-Saint-Denis. Voilà, d'ailleurs, c'est intéressant par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, Christian. Je me disais que finalement, beaucoup de démarches, y compris les démarches de transition écologique ou développement durable, à vocation transversale, telles qu'un budget participatif, peuvent avoir des effets transformateurs sur l'administration. Ça pourrait être l'occasion d'un autre débat. Alors, je vais essayer de projeter effectivement les quelques slides que j'avais préparés. Voilà, pour me remettre moi aussi dans le bain du budget participatif parisien. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui?
Oui,
Moi,
c'est
je.
bon. C'est
Ok,
bon.
super. Donc, juste pour le remettre en contexte, alors d'abord, dans la question telle que je l'ai comprise, stop ou encore, et les petites sous-questions qui nous ont été proposées en termes de cadrage de cet exercice, de cette prise de parole, j'ai compris qu'il fallait qu'on se questionne sur l'efficacité du dispositif, sa dimension inclusive, et puis sa dimension aussi disruptive sur le fonctionnement des collectivités, voire transformatrice. De leur fonctionnement. Donc, je vais essayer tout au long de ma prise de parole, de 10 minutes, un quart d'heure, d'illustrer ces éléments de bilan, forcément très provisoire, puisque alors Paris en est à son 7e budget participatif, mais ça reste une démarche qui est en amélioration continue. On va y revenir. Donc le contexte, c'est qu'en 2014, au titre de ces engagements de campagne, Anne Hidalgo, qui est élue maire de Paris, décide de mettre en œuvre un budget participatif autour de cette promesse que vous voyez à votre écran. C'est vous qui proposez, c'est vous qui décidez. On pourrait rajouter, c'est nous qui réalisons. Mais voilà, c'est l'origine du budget participatif parisien, c'est la campagne électorale de 2014, et ça se traduit par un engagement budgétaire de 100 millions d'euros par an. Sous la précédente mandature, répartie dans les 20 arrondissements, plus une échelle de budget participatif parisien, c'est-à-dire finalement, à l'époque, puisque depuis certains arrondissements ont fusionné, 21 budgets participatifs qui représentent à eux tous une somme de 90 millions d'euros. Pourquoi 90 et pas 100? Parce que à partir de 2016, c'est une démarche qui a donc évolué en marchant, 10 millions d'euros sont consacrés à des budgets participatifs dédiés dans les écoles et dans les collèges parisiens. Et on pourrait ajouter 1 million d'euros dédiés à un budget participatif des bailleurs sociaux. Voilà, donc le budget participatif de Paris se décline en 21 dispositifs territorialisés. Un par arrondissement, un à l'échelle tout Paris, en un dispositif dédié aux écoles, et plus précisément aux écoliers, aux équipes éducatives, un dispositif dédié aux collèges et un dispositif dédié aux locataires du parc social et à leur environnement immédiat, c'est-à-dire leur résidence. Il y a eu une autre évolution, et là j'interroge, enfin je mets le doigt sur la dimension inclusive du dispositif. La première année du budget participatif, la première année, je dirais réelle, l'année 2014 est une année de test, c'est-à-dire que c'est la ville de Paris qui propose des projets sur lesquels se prononcent les habitants. Donc la première édition réelle, selon les règles, vous proposez, vous décidez, c'est 2015. Et en 2015, on constate que dans certains arrondissements, les projets des quartiers classiques, je dirais, ont eu un taux de succès supérieurs à ceux des quartiers dits populaires, c'est-à-dire quartiers politiques de la ville, ou quartiers de veille active, anciens quartiers politiques de la ville. La maire décide d'organiser une géographie prioritaire, c'est-à-dire de réserver 30 millions d'euros sur les 100 aux 10 quartiers populaires. Ce qui veut dire qu'on développe un mécanisme d'allocation de la ressource, que vous voyez un peu indiqué en jaune sur ces schémas. On réserve une partie du budget participatif de chaque arrondissement et de tout Paris à ces quartiers populaires, donc à des projets qui sont labellisés quartiers populaires, soit parce qu'ils y sont localisés, soit parce qu'ils bénéficient aux habitants des quartiers populaires. En parallèle de cette priorisation, il y a une démarche d'accompagnement qui est mise en place. Donc, vous voyez les quartiers populaires en zone colorée sur cette carte, une enveloppe de 100 000 euros chaque année qui nous sert à alimenter un appel à projet pour missionner des associations, soutenir des associations plutôt, pour accompagner l'élaboration de projets par les habitants des quartiers populaires, du dépôt jusqu'au vote, c'est-à-dire jusqu'à l'accompagnement, le cas échéant, à la campagne électorale à mener avant le vote. Donc une double démarche, à la fois une priorisation d'une partie de l'investissement et un soutien aux associations pour accompagner les habitants dans une démarche un peu d'éducation populaire. Comme pour la majorité des budgets participatifs, voire tous, Antoine, tu nous diras, mais le budget participatif parisien s'appuie sur des critères assez classiques. Pour être recevable, un projet doit relever de l'intérêt général, relever de nos compétences. Vous le savez, la ville de Paris assume des compétences de ville et de département. Relever de dépenses d'investissement qui n'incluent pas de dépenses de fonctionnement trop importantes pour la collectivité, typiquement créer un nouvel équipement public et créer les postes qui iraient avec, ça n'est pas recevable au budget participatif parisien, et être déposé par un Parisien, on y reviendra aussi parce que cet élément peut questionner, enfin déjà est important et peut questionner. Une fois que les projets sont déposés, il y a une étude technique, qui est un moment très collaboratif, qui peut mobiliser jusqu'à 500 collègues de la ville pour estimer la faisabilité des projets. Si ces projets sont jugés faisables, alors ils sont présentés au vote. Je vais rapidement, mais évidemment, je reviendrai sur vos questions le cas échéant. Comme pour la grande majorité des budgets participatifs, le processus assez classique, 4 étapes. Une étape de dépôt de projet. Alors là, la dimension simple et accessible est importante. À Paris, c'est vraiment, on demande un thème, d'inscrire le projet sur une des thématiques proposées, de le décrire et de lui donner un titre. On ne demande pas évidemment de documents de type budget prévisionnel ou autres documents techniques, sinon on perdrait une partie du public qu'on cherche à toucher. Et puis ensuite, on rentre dans une analyse de recevabilité et de faisabilité, qui peut induire des temps de co-construction avec les habitants de projets qui se ressemblent, soit parce qu'ils sont localisés aux mêmes endroits, soit parce qu'ils concourent aux mêmes thématiques. Et puis arrive le temps du vote en septembre, désignation des lauréats à l'issue du vote, quelques jours après, et puis vote du budget de la collectivité pour l'année suivante en décembre, qui permet de déclencher la mise en œuvre des projets lauréats. Donc un cycle du dépôt jusqu'au vote dure 9 mois, et puis ensuite on rentre dans une phase pluriannuelle de mise en œuvre des projets votés. Alors cette mise en contexte est en fait, j'en arrive rapidement aux enseignements qu'on a pu dégager de cette démarche autour des questions que vous nous posiez, Christian. Sur la dimension inclusive, je la regarde d'abord de manière un peu quantitative. Vous voyez s'afficher la croissance de la participation au vote à Paris, donc de 40 000 votants en 2014 à 143 000 en 2019. Si j'inclus les budgets participatifs des écoles, des collèges et des bailleurs sociaux, en 2019, il n'y a pas eu de budget participatif en 2020 à cause de la crise sanitaire. En 2019, on a 230 000 votants au total, c'est-à-dire un peu plus de 10% de la population. Alors, c'est un regard très quantitatif. Pour ce qui est du plus qualitatif, je vous dis tout de suite qu'on ne collecte pas de données sociologiques sur les participants déposant ou votant au budget participatif. Donc, on a un petit peu de mal et de difficulté à voir, au-delà des objectifs de moyens qu'on s'est fixés, la dimension inclusive du budget participatif. Néanmoins, ce qu'on constate, et c'est un autre graphique que je voulais partager avec vous, c'est que le vote papier fonctionne bien. On a un dispositif assez volontariste de présence dans l'espace public au moment du vote, qui nous permet d'aller vers les habitants et de localiser nos urnes dans des endroits, notamment les quartiers populaires, où on cherche à aller vers et à mobiliser des habitants réputés être plus éloignés de l'institution, puisque la promesse initiale est celle-là, hein, c'est de refaire du lien autour du budget participatif entre les citoyens et leur institution, leur ville. Donc on voit là que la progression du nombre de votants est très largement tirée par le vote papier, beaucoup moins par le vote numérique qui atteint un plafond dès 2015, autour de 40 000 votants. Et pour nous, c'est un indicateur intéressant de la dimension inclusive de la démarche, c'est-à-dire qu'on arrive à susciter du vote d'opportunité, des gens qui n'avaient pas forcément prévu de voter et qu'on va chercher dans l'espace public pour le faire. Voilà, ça c'est une cartographie un peu pour illustrer tous les points de vote qu'on trouve sur le territoire. Il y en a à peu près 200 au moment du vote. C'est des points de vote fixes ou des points de vote mobiles, tractés par un triporteur ou par des chariots type chariot de glacier pour se déplacer, pour être à la sortie des écoles, pour être à la sortie des marchés, pour être dans tous les lieux de passage où on sait qu'on va rencontrer des Parisiennes et des Parisiens pour leur proposer de voter. On accompagne ce dispositif de la mobilisation de vacataires dont le boulot, c'est à la fois d'être un peu nos agents électoraux, mais aussi d'aller vers les gens pour leur expliquer la démarche. Voilà la courbe des votants que je cherchais tout à l'heure. Tout dispositif confondu, on atteint 230 000 votants en 2019. L'autre élément de résultat qui nous intéresse, et je crois que ça, c'est un élément très important, c'est les concrétisations. C'est-à-dire que le budget participatif, ça va mieux en se le disant, ne s'arrête pas au moment du vote. Et je dirais que c'est une deuxième histoire qui commence, peut-être en tout cas tout aussi importante que tout le processus du dépôt jusqu'au vote, c'est la réalisation des projets votés. Entre 2014 et 2019, c'est 986 projets votés à Paris pour 445 millions d'euros. Et ça se concrétise en 2700 réalisations, parce qu'un projet peut donner lieu à plusieurs réalisations. Par exemple, sur cet écran en bas à droite, vous avez le projet Plus de nature en ville. Bah, c'est un ensemble d'opérations, de végétalisation, verticale ou horizontale, d'agriculture urbaine, qui vont se traduire sur tout le territoire. C'est important pour nous de produire des preuves et d'en créer le récit, tout simplement parce que voilà, cet aspect concret, vous avez proposé, vous avez décidé, nous avons réalisé, c'est l'élément le plus tangible qui va nous permettre de répondre encore une fois au contrat participatif qu'a proposé la maire, qui est de dire on va retisser du lien, on va vous donner les clés du budget, je crois que c'est son expression exacte. Et pour nous, du coup, c'est l'élément de légitimité centrale du dispositif, c'est de pouvoir revenir année après année vers les gens pour leur dire donnez-nous vos idées, proposez-nous vos idées, en étant en capacité aussi de leur dire voilà ce qui est advenu des projets pour lesquels vous avez voté l'an dernier. Et c'est du coup un élément assez important en termes de mesure de résultats et d'efficacité, évidemment, du dispositif, c'est d'en produire des preuves. L'autre élément que je n'ai pas matérialisé par un transparent, c'est par un slide, par exemple par une diapo, relatif à cette recherche d'efficacité, c'est la question du thermomètre, c'est-à-dire le fait que le budget participatif soit un bon élément, à mon sens, de mesure de l'opinion à un moment donné, même si, évidemment, tous les Parisiens ne participent pas. On a, je ne sais pas si vous avez entendu les polémiques récentes sur la propreté à Paris, l'inadaptation de certaines typologies de mobilier urbain. Bah, ce genre de critiques, alors formulées sous l'angle de projet, C'est aussi un intérêt du budget participatif, c'est que la critique devient une proposition. On l'a vu émerger, on l'a mesuré au budget participatif lors de la phase de dépôt de projet en janvier 2021, janvier-février, avant que ça ne prenne une dimension médiatique. On a vu au travers du budget participatif que ce type de demande émergeait. Et sur ce sujet, comme sur plusieurs autres, on a pu se rendre compte que, et c'est peut-être une mesure aussi de la dimension, on va dire, représentative, le budget participatif pouvait servir de baromètre de l'opinion des Parisiens à un moment donné, voire pouvait faire mentir d'autres baromètres. J'ai souvenir notamment de l'année 2016, de l'édition 2016, où on parlait beaucoup, les instituts de sondage notamment, de l'aspiration à la sécurité des Parisiens. Hein, on était dans la suite des événements tragiques et des attentats de fin 2015. Eh bien, on a vu émerger au budget participatif une très très forte demande de solidarité qui était aussi intéressante à mesurer avec plus de 20 000 votants pour des projets comme des abris pour les personnes sans abri. Alors, à la question du budget participatif, est-il disruptif ? J'ai pris qu'un exemple, c'est l'évolution dont a pu témoigner auprès de moi une collègue de la direction des solidarités, du social. C'est la manière dont le budget participatif avait pu faire émerger un travail social complémentaire autour du temps culinaire. Il y a eu ce projet voté, notamment hein, Alimentation pour tous, qui visait notamment à créer des cuisines partagées. Et au travers de la mise en œuvre de ce projet avec nos collègues des solidarités, eh bien, on a pu constater combien l'aide alimentaire était évidemment nécessaire et indispensable, mais l'accompagnement culinaire était un temps utile pour les travailleurs sociaux pour voir une famille fonctionner et développer un travail d'accompagnement intéressant. Et le budget participatif, là, s'est positionné en révélateur de cette question de l'enjeu pour la collectivité de s'investir sur cet accompagnement culinaire autour de la création de cuisines partagées. Je l'illustre avec quelques-uns des projets qui ont été soutenus au travers du budget participatif sur cet écran. Et ça a été vraiment quelque chose qui est venu compléter le regard, enrichir le regard de l'action sociale sur ces questions. Et puis, pour compléter sur cette question disruptive, faire évoluer le regard aussi sur le rôle des citoyens, qui là sont force de proposition au travers de ces projets, sur le rôle de citoyens pour nourrir d'autres formes d'action sociale, là où précédemment ils étaient un peu vus comme, ils pouvaient être arrivés qu'ils soient vus comme des empêcheurs de tourner en rond. Typiquement, on entendait des choses comme « pourquoi est-ce que les citoyens font de l'aide alimentaire ?» là où nous, on a des centres d'aide alimentaire qui sont prévus pour ça et qui finalement, le fait de poser trois cagettes et des paniers repas dans l'espace public va détourner les personnes qui en ont besoin de nos centres de distribution alimentaire. On a évolué de cette posture au travers des projets qu'a pu soutenir le budget participatif. Alors, la transformation ou en tout cas l'effet transformateur de l'administration, je l'illustre autour de ce processus qui détaille un peu nos quatre phases. Je ne vais évidemment pas passer trop de temps là-dessus, mais MA, c'est mairie d'arrondissement, CCQ, coordinateur de conseil de quartier, DDVAC, directeur de la vie associative, EDL, équipe de développement local, DO, direction opérationnelle, voirie, environnement. Vous voyez un ensemble d'acteurs qui sont mis en relation au travers du processus budget participatif, alors que globalement ils travaillent assez peu ensemble. Je pense notamment aux acteurs des territoires, des arrondissements et aux acteurs des directions opérationnelles. Le budget participatif offre ces temps de coopération autour d'un système d'information qu'on a organisé, qui est dédié à cette instruction et à cette mise en œuvre coopérative de nos projets. Et c'est un élément qui effectivement a révélé la capacité du budget participatif à être un outil au service du décloisonnement de la collectivité et de l'institution de mode de fonctionnement plus coopératif. Je termine sur ce volet transformateur avec la question du stop ou encore. Je me disais que c'était quand même important de se rappeler que parmi toute la palette des outils participatifs, le budget participatif est quand même se situe assez haut dans l'échelle d'Einstein, puisqu'il habilite les habitants en leur donnant un rôle de proposition des projets qu'ils souhaitent voir émerger, au-delà donc d'une action de concertation ou de co-construction qui peut, elle, plutôt concerner des projets qu'on a déjà prévus parce qu'ils ont été votés, notamment dans le cadre de mécanismes électoraux plus classiques et évidemment légitimes. Voilà, je vais peut-être juste m'arrêter sur ce dernier slide. Il y a évidemment, puisqu'on parle de résultats et que vous nous invitiez à poser un regard critique, des incompréhensions et des débats autour du budget participatif sur qui dépose. Est-ce que c'est la ville qui dépose ses propres projets pour les faire voter par les habitants? Est-ce que c'est légitime qu'au travers du budget participatif, on finance des rénovations de toilettes dans les écoles? Comment est-ce qu'on garantit la sécurité et la sincérité, surtout du scrutin? Voilà, des questions un peu redondantes qui nous remontent de la part des habitants et qui sont des critiques, mais sont aussi des indicateurs du bon fonctionnement du budget participatif. S'il suscite débat, s'il nous invite à nous améliorer, s'il nous invite à préciser certaines choses, certaines règles et certains fonctionnements, c'est que il est utile au rétablissement d'un débat sur le fonctionnement de la collectivité, sur la manière dont elle produit des projets d'investissement, ce qui est bien tout l'enjeu, ou en tout cas le mandat qui nous était fixé par la maire de Paris lors du lancement de cette démarche. J'avais prévu d'autres éléments, mais peut-être je m'arrête là, Christian, pour permettre un peu de temps de débat.
Oui.